Radio Prague, les informations.
La Commission européenne menace la République tchèque de suspendre le versement des fonds. 200 centres de soins pour handicapés menacés de fermeture. Le directeur du service d'hygiène suspendu de ses fonctions. La Commission européenne menace la République tchèque de suspendre le versement des crédits en provenance des fonds européens. Le commissaire en charge des affaires régionales, Johannes Hahn, se rendra à Prague la semaine prochaine afin de discuter des problèmes tchèques. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Petr Nečas. Plusieurs milliards d'euros sont en jeu. Plus de 200 d'établissements de soins pour handicapés en République tchèque sont menacés de fermeture à cause du manque de moyens financiers. Leur fermeture serait un coût grave pour 25 000 handicapés, seniors et autres personnes nécessitant ce genre de service. En cas de fermeture, 1 400 employés de ces établissements seraient licenciés. Le directeur du service d'hygiène et vice-ministre de la Santé, Michael Witt, a cédé ses compétences à la vice-directrice du service, Viera Chediva. Michael Witt a été obligé de prendre un congé non payé parce qu'il est soupçonné d'abus du pouvoir. Il sera suspendu de ses fonctions jusqu'à la fin de l'enquête que la police a ouverte sur son affaire. Si les soupçons qui pèsent contre lui se confirment, il risque une peine allant jusqu'à 10 ans de détention. La Cour constitutionnelle a rejeté une requête des descendants de Hugo Mikuláš Salm, ayant vécu entre 1893 et 1946. La famille de cet aristocrate demande que la justice invalide la décision de Salm d'adopter la nationalité allemande. Selon ses descendants, en adoptant la nouvelle nationalité, Hugo Mikuláš Salm a agi sous la pression des autorités du Troisième Reich. L'invalidation de cet acte pourrait jouer le rôle clé dans la demande de restitution des biens de la famille Salm en République tchèque qui ont été confisqués après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, conformément au décret du président Beneš. Comme cela a été attendu, la Chambre des députés a donné son aval ce jeudi au projet de traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Le texte va désormais être examiné par la Commission en charge des affaires étrangères. La République tchèque a déjà soutenu à plusieurs reprises l'adhésion de la Croatie. Tout laisse donc à penser que le traité d'adhésion sera adopté tant par la Chambre basse que par la Chambre haute du Parlement. Le projet de démolition d'un édifice historique de la place Venceslas au centre de Prague a été rejeté par des experts et des historiens d'art. L'élégante maison dans le style art déco doit céder la place à un édifice moderne. Selon Michaela Otova, présidente de l'association d'histoire de l'art qui a lancé cette initiative pour sauver cet immeuble, la maison devrait avoir le statut de monument classé. La majorité des experts interrogés estiment qu'il s'agit d'une architecture de valeur. Cependant, la démolition a été rendue possible par une décision de l'ancien ministre de la Culture, Jiří Bessel. Météo. C'est un temps variable avec de belles éclaircies qui a régné sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Ida. Les températures ont varié entre 7 et 11 degrés pour les maximales. Vendredi, le ciel en Tchéquie sera clair à presque clair et les températures maximales se situeront entre 15 et 19 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Paul Bauer.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Václav Richter pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, cette semaine jusqu'au 18 mars, la capitale tchèque commémore la rédaction il y a 35 ans de la charte 77. Le 13 mars dernier, 35 ans jour pour jour se sont écoulés depuis la mort du philosophe Jan Patočka, initiateur du mouvement de contestation au régime communiste. Politique et environnement, qualité de l'air en République tchèque, le Sénat examine la loi dite du pollueur-payeur qui s'adresse aux industriels du pays. Enfin, en deuxième partie d'émission, nous vous proposons la deuxième et dernière partie du portrait de l'ambassadeur tchèque à Paris, Marie Chatardova. Bonne écoute. Cette semaine, les Tchèques commémorent le 35e anniversaire de la rédaction de la Charte 77, cette fameuse pétition des intellectuels contre le non-respect des droits de l'homme par la Tchécoslovaquie communiste le 13 mars dernier. 35 ans se sont également écoulés depuis la mort du philosophe Jan Patočka, l'un des principaux initiateurs de la Charte 77. Il est décédé à l'âge de 69 ans, à la suite de plusieurs interrogatoires de la police politique. Une messe au cloître de Bjevnov et une rencontre des anciens dissidents à l'hôtel de ville de la vieille ville ont également été organisés ces jours-ci en mémoire de Jan Patočka, dont les pensées sur l'histoire de la nation tchèque et de la philosophie de l'histoire sont aujourd'hui quelque peu éclipsées par son image de martyr national. Les détails avec Magdalena Rozinkova.
Influencé surtout par la phénoménologie allemande, Jan Patočka était également francophone et francophile. C'est lors d'un séjour d'études à Paris en 1928 qu'il allait rencontrer Edmund Husserl. Ses études ont aussi amené Patočka à Berlin et à Fribourg où il fait connaissance de Heidegger et de Fink. Dans sa vie, Patočka a vu s'interrompre à trois reprises sa carrière académique qui lui tenait tant à cœur. D'abord au début de l'occupation nazie, ensuite dans les années 50, à l'époque des purges communistes, et enfin au début de la normalisation qui a suivi l'écrasement du printemps de Prague. C'est à ce moment-là que le philosophe, se tenant jusqu'ici à l'écart de la vie politique, prend conscience de la nécessité d'un engagement de citoyen, comme nous le raconte le philosophe et gendre de Patočka, Jan Sokol.
Patočka se během celého života dost snažil té politice vyhnout.
Pendant toute sa vie, Patočka a essayé de contourner la politique. Encore en 1968, il ne s'est pas engagé. Mais au fil du temps, sa position a changé. Dans sa dernière conférence à l'université, il s'est posé la question de savoir à quoi devrait ressembler un bon État. Cette conférence était certes consacrée à Socrate, mais ce dernier lui a permis de montrer les bons et les mauvais côtés du fonctionnement de l'État. Son engagement politique a en fait commencé lorsqu'il a pris la défense des musiciens du groupe The Plastic People of the Universe. Il a compris que même un philosophe ne pouvait faire semblant de ne pas être concerné par ce qui se passe dans la société.
Jan Patočka apparaît comme quelqu'un qui aimait parler, discuter, être entouré d'amis et de ses disciples. Mis à la retraite en 1972, il allait alors donner des cours non officiels dans le cadre de ce que l'on appelait des Beethoven-séminaires et des séminaires organisés dans des appartements. Devenu un des premiers porte-parole de la Charte 77 aux côtés de l'ancien dirigeant politique Jiří Hájek et du dramaturge Václav Havel, Jan Patočka s'est vite retrouvé dans le collimateur de la police d'État, la STB. Le philosophe a été arrêté à l'issue de sa rencontre avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Max van der Stoel. Affaibli par une grippe non soignée, il est décédé suite à plusieurs interrogatoires, dont le dernier a duré 11 heures. Jan Sokol se souvient.
Ces interrogatoires l'ont totalement épuisé, non parce que les policiers auraient été cruels avec lui, mais parce que les interrogatoires étaient longs et très stressants. La police politique avait une méthode particulière à laquelle Patočka était incapable de résister. Il ne tapait pas les gens, il ne leur criait pas dessus, il suscitait des débats, soulevait des objections, faisait semblant de discuter. Patočka s'est toujours laissé prendre et commençait à discuter lui aussi, à expliquer. Lorsqu'il avait fini d'expliquer, il lui reposait la même question. Et ceci 5 fois de suite, toute la journée. Sa mort a été le résultat d'un stress énorme et aussi du désespoir.
Podle mého názoru to byla spíš věc toho strašného stresu a určité beznaděje.
L'enterrement de Jan Patočka au cimetière de Břevnov, suivi de très près par la police communiste, qui a même essayé de perturber son déroulement, est devenu une manifestation tacite contre le régime en place. L'œuvre de celui qui est considéré comme le plus grand philosophe tchèque n'a véritablement été découverte en Tchécoslovaquie comme à l'étranger qu'après sa mort en 1977. Cette œuvre, consacrée à la réflexion sur l'histoire, sur le rôle des penseurs au sein d'une société, est également disponible en français, dont son ouvrage le plus connu et le plus traduit, et c'est Hérétique sur la philosophie de l'histoire.
Les sénateurs tchèques examinent ce jeudi un projet de loi sur la protection de la qualité de l'air. Alors que le gouvernement avait présenté un projet de loi pour protéger la qualité de l'air en augmentant plus de 3 fois les taxes entre 2017 et 2021, les députés de la Chambre basse sont favorables à l'établissement d'un moratoire sur la loi dite du pollueur-payeur pour les 9 prochaines années, générant des critiques de la part des associations d'écologistes et des responsables des collectivités locales et des régions où la pollution de l'air est alarmante.
Selon le comité économique du Sénat, la taxe pour les pollueurs devrait rester en vigueur jusqu'en 2016, puis baisser progressivement. Pour le vice-président du Conseil économique, Karel Šebek, le projet de loi du pollueur-payeur a une dimension incitative pour les entreprises émettrices de rejets polluants. Le texte prévoit en effet que si les entreprises se rapprochent des normes européennes avant la dot qui leur a été fixée, l'État pourrait leur octroyer un allègement fiscal. Cette mesure devrait ainsi inciter les entreprises à moderniser leurs moyens de production afin d'abaisser les niveaux d'émissions. La qualité de l'air est un problème majeur de santé publique dans les bassins industriels et les grandes villes, Prague comprise, avec les villes du bassin minier de la Bilina dans la région d'Oustina de la Benne. La région d'Ostrava est sans aucun doute celle où les taux recommandés d'émissions de poussières industrielles sont régulièrement dépassés. Pourtant, à l'opposé du Sénat, les députés de droite de la Chambre basse du Parlement souhaiteraient abolir la loi sur la taxation des émissions, afin notamment de ne pas pénaliser l'industrie tchèque en période de crise. Petr Kajnár est le maire de la ville d'Ostrava, l'une des villes les plus polluées du pays. Il réagit à cette initiative des députés de la Chambre basse. On l'écoute.
Nous considérons qu'il s'agit d'une mauvaise décision car nous ne souffrons pas seulement de l'émission des poussières industrielles, mais également de rejets dans l'air d'autres particules chimiques. Nous souhaitons tous vivre dans un environnement où l'industrie ne nous contamine et ne nous empoisonne plus. L'objectif est d'avoir une production industrielle qui ne pollue pas. Or, nous ne pourrons jamais atteindre cet objectif si les entreprises ne sont pas sanctionnées.
Soucieux de préserver le niveau de l'emploi industriel, principal secteur d'activité de la région de Moravie-Silésie, le maire d'Ostrava estime que la politique d'incitation à la modernisation proposée par le Sénat permettrait de faire avancer les choses dans la bonne direction.
Je ne pense pas qu'il soit bon d'accabler avec davantage de taxes le secteur industriel en République tchèque qui est actuellement en difficulté. L'idéal serait de trouver un moyen de motivation pour les industriels, c'est-à-dire de proposer de baisser la taxe anti-pollution si une entreprise parvient à baisser son taux d'émission.
Pour le président du comité environnemental du Sénat, Ivo Barek, l'un des principaux défenseurs de la taxation, la prolongation du principe du pollueur-payeur devrait être prolongée. La question est de savoir de quelle manière. Il précise en outre que des mesures incitatives devraient être adoptées afin que les entreprises investissent dans des technologies plus propres. Andrzej Horki est chercheur en sciences sociales, spécialiste du développement. Il est un observateur avisé de la situation environnementale en République tchèque. Il rappelle les enjeux environnementaux des débats sur le principe du pollueur-payeur.
On a une situation où d'un côté on a des lobbies industriels et le comité économique de la Chambre des députés, à travers tous les partis du Parlement, à part Vietsebagene. De l'autre partie, on a le ministère de l'Environnement qui a proposé un bon compromis. On a des organisations écologiques et évidemment on a aussi les collectivités locales dans les régions sous pression qui sont très mécontentes du fait que les industries n'auraient plus d'entrave à leurs émissions et aucune motivation pour améliorer leur technologie pour que la situation de l'air s'améliore et évidemment aussi la santé des enfants, des femmes et des hommes dans ces régions.
C'était Andrzej Horki, chercheur spécialiste des questions de développement et de politique environnementale. Marie Chatardová est ambassadeur de République tchèque en France depuis 2010. Parcours sans faute pour cette femme originaire de Moravie qui s'est retrouvée dans la diplomatie un peu par hasard, comme elle le remarque, mais a gravi les échelons à partir des années 1990, à une époque où, après la chute du communisme, le monde et l'histoire semblaient à portée de main. Mariée à un Français, elle a trois enfants, tous bilingues. Alors comment gérer une vie de famille épanouie sans renoncer à sa carrière? Comment gérer sa carrière sans délaisser ses proches? Quel regard porte-t-elle sur la place des femmes à des hauts postes décisionnels? Le système tchèque permet-il aux femmes de mener de front vie de famille et avancement professionnel? Autant de questions qu'Anna Kubishta a abordées dans un long entretien dont nous vous proposons la seconde et dernière partie aujourd'hui.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
« Madame l'ambassadrice de République tchèque, Marie Chatadova, vous avez épousé un Français, dont vous portez d'ailleurs le nom, et vous êtes tous deux parents de 3 enfants. Alors comment est-ce que vous, personnellement, vous gérez votre mission d'ambassadrice et votre vie de famille à la fois ?
Mon mari a choisi de venir à la République tchèque avant de me connaître. Il a passé 7 ans à rédiger son doctorat sur l'économie tchèque. Il a obtenu la nationalité tchèque. Son activité favorite, c'est justement d'être un grand défenseur de nos valeurs, de nos modes de fonctionnement, de nos réussites.
Il est plus tchèque que tchèque.
Voilà, c'est un bon ambassadeur qui me complète aussi dans mes fonctions d'ambassadeur. C'est très complémentaire à mon activité diplomatique, surtout en France. Il n'a pas poursuivi sa carrière universitaire qui aurait été la sienne après son doctorat pour s'occuper des enfants et de la famille. Alors, qu'on lui demande à quoi il passe ses journées, il s'amuse un peu en parlant des courses, des enfants et du ménage. Souvent, les gens ont du mal à le croire, mais c'est pourtant la réalité, même si c'est très réducteur.
Et ça fonctionne bien?
Ça fonctionne bien. Et votre remarque concernant mon prénom, mon nom, ça m'a rappelé un peu que comme moi c'est Chatardova, mon mari évidemment c'est Chatard, parce qu'à l'époque on se mariait, c'était obligatoire de mettre Ova à la fin. Mm-hmm. Quelquefois ça crée des situations assez comiques parce qu'on appelle mon mari Chatardov.
Est-ce que vous diriez que votre modèle familial est atypique pour la République tchèque ? Parce que, bon, il reste assez courant que la femme tchèque prenne un long congé maternité, qu'elle reste à la maison tandis que l'homme travaille. Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent ? Et comment est-ce que vous expliquez un petit peu cette différence avec la France ?
Un papa qui reste à la maison, ce n'est pas encore très répandu en République tchèque. Mais ce qui a fonctionné pour nous pourrait aussi aller à d'autres familles. Et j'essaie de faire passer ce message. Mais il n'y a pas de système parfait. C'est bien que ce débat puisse avoir lieu au sein des familles tchèques pour que chacun détermine le modèle qui lui convient le mieux. Et mon mari dit toujours qu'il n'a jamais eu à souffrir de son choix en République tchèque. Et nous sommes une société où peu de gens jugent les autres. Il y a un grand respect pour la vie privée et les choix de vie, et je pense que c'est très bien comme ça.
Alors justement, vos enfants grandissent-ils dans les deux langues, le tchèque et le français, dans les deux cultures ?
Nos enfants ont eu la chance de commencer l'école dans le système tchèque, parce que je pense que c'est un système vraiment exemplaire, à la fois rigoureux dans les apprentissages et très humain dans les relations entre les enseignants et les élèves. C'est peut-être l'héritage de Comenius qui a été mis en valeur après 1918 par nos pédagogues. Et dans une famille bilingue, le grand principe à respecter, que je peux vraiment recommander à tout le monde, c'est que chaque parent ne parle que dans sa langue d'origine. Mon mari comprend le tchèque et moi le français, et c'est assez simple pour nous, et les enfants sont absolument bilingues. Avec les études à l'étranger, ils sont aussi à l'aise en anglais. Et à Paris, nous avons la chance d'avoir l'école tchèque sans frontières, avec des bénévoles très bien formés qui s'occupent d'une véritable petite école pour les enfants de nos expatriés. Et les enfants sont ravis de se retrouver là un jour par semaine, soit le mercredi pour les tout petits, soit le samedi.
Vos enfants ont quel âge en fait ?
Moi, j'ai une fille qui a 26 ans, un fils qui a 18 ans et un autre fils qui va avoir 10 ans dans 3 semaines.
Quelle est votre journée typique du matin au soir ? Je suppose que vous devez quand même avoir une bonne organisation pour gérer la journée.
Et il n'y a pas vraiment de journée typique car le travail est extrêmement varié. Certains jours, je suis en région. Par exemple, récemment, pour préparer la journée tchèque à Rennes, j'ai pris le train le matin, j'ai eu une réunion avec le maire, puis avec le directeur de l'opéra, j'ai déjeuné avec le représentant de la chambre de commerce, j'ai rencontré la directrice de la maison de l'Europe locale, le représentant de l'université, enfin le comité de direction du journal Ouest France, qui est de journal ayant la plus grande diffusion en France. Et je suis revenue à Paris un peu avant minuit. Et à Paris, il y a aussi du travail de préparation, des discours à faire, l'activité de l'ambassade à organiser, un déjeuner de travail, souvent à l'ambassade, et puis des délégations à accompagner, un réseau relationnel à construire, des journalistes à recevoir. Il y a aussi des dîners ou des événements auxquels nous participons. Et assez souvent, nos fenêtres restent allumées tard dans la nuit. J'ai la chance d'avoir une équipe très motivée à l'ambassade. Et c'est très important, le collectif, car si vous pouvez faire confiance à ceux qui vous entourent, chacun est plus heureux et le travail aboutit à de bons résultats.
Quand vous ne travaillez pas et que vous pouvez profiter de la vie à Paris, quelles sont les activités que vous privilégiez ?
Le métier d'ambassadeur demande une grande disponibilité pour profiter de la vie à Paris, comme vous dites. Je ne crois pas que cette fonction soit vraiment idéale. C'est une grande surprise pour les amis que nous avions à Paris, puisque depuis notre arrivée, nous les voyons très peu en dehors des événements officiels auxquels un certain nombre d'entre eux participent aussi. La vie d'un ambassadeur prend son sens dans le service de son pays. C'est très satisfaisant pour l'esprit et finalement ça occupe entièrement celui ou celle qui choisit ce travail. Mais si j'ai quelquefois le samedi matin libre, nous allons nous promener avec mon mari dans un très très beau jardin qui s'appelle Bagatelle. Il y a là des roses magnifiques, peu de monde à ce moment de la semaine, ce qui est un luxe rare à Paris. Et dans la semaine, je prends souvent 15 minutes pour faire le tour du Champ de Mars à pied. C'est là que l'ambassade, j'aime beaucoup cet endroit. Il y a beaucoup d'espace, la tour Eiffel est vraiment un bel édifice, au moins, moi je le crois.
Quels sont pour l'heure les moments qui vous ont le plus marqué depuis le début de votre mission diplomatique à Paris ?
Comme j'ai déjà dit, le rythme de travail est extrêmement intense. Les jours passent comme des semaines et les semaines comme des mois. Et plutôt que quelques moments particuliers, c'est l'ensemble de cette vie si remplie qui constitue le fait le marquant de mon séjour à Paris, que j'aime beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était l'ambassadeur de République tchèque Marie Chatardova qui était au micro d'Anna Kubichtin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Au revoir. Nasledanou.